Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour la fête du baptême du Christ. Jean le baptisant arrive dans le désert et proclame
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »
Or, à cette époque, Jésus vient de Nazareth, ville de Galilée, et se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sort de l'eau, Jésus voit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fait entendre.
« C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi se trouve parfaite ma volonté. » Auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, voici un texte qui est capital dans l'Évangile, puisqu'il nous dit le début de la mission de ce prophète, Jésus, qui a marqué l'histoire toute récente de l'humanité. Jésus quitte Nazareth, où il a vécu 30 ans, dans le silence d'une vie ordinaire. Et il nous faudra découvrir la réalité profonde que ce texte va décrire en se servant des images classiques de la Bible.
Quel est ici le contexte?
Eh bien, nous sommes dans le premier chapitre du récit évangélique selon Marc. Les premiers versets nous ont présenté la prédication de Jean le baptisant. Sa mission, eh bien, c'est essentiellement de préparer les cœurs à la venue du Seigneur Dieu. Par les autres récits évangéliques, nous savons que Jean annonce l'intervention éminente de Dieu, et Dieu qui va purifier son peuple par l'intermédiaire de celui qu'il va consacrer Messie par l'onction sainte. Jean, bien sûr, ne sait pas encore qui sera l'élu de Dieu, il l'attend de toute son espérance, convaincu que Dieu lui révélera le Messie.
Moi-même, je ne le connais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. »
C'est ce moment unique que notre texte va décrire. La péricope sera suivie du séjour de Jésus dans le désert. Là, il devra affronter toutes les tentations qu'il rencontrera tout au long de sa prédication pour réaliser la mission que Dieu lui a confiée.
Qui donc est Jean?
Eh bien, Jean est le fils d'Élisabeth et de Zacharie, et c'est un personnage, bien sûr, important de son époque. Cette époque, elle a commencé en l'an 63, avant notre ère, par l'invasion de la Palestine par les Romains. Et elle s'achèvera d'une certaine manière en l'an 135, par la disparition de la nation juive. Pendant ces années, il y aura de nombreux mouvements de révolte, et l'un d'eux a été conduit par un Galiléen, Judas. Mais les Romains ont eu vite fait d'écraser son mouvement, et ils ont même crucifié 2000 de ses partisans. Son organisation s'est poursuivie cependant clandestinement, et elle a été ensuite appelée le mouvement des Zélotes. En 66, d'ailleurs, ces Zélotes réussiront à s'emparer du pouvoir, mais ce sera pour peu de temps, car 4 ans après, Rome écrasera la révolte et détruira le temple. Ces Zélotes, eh bien, ce sont des gens très religieux et qui ne peuvent supporter de voir un païen diriger leur peuple. Ce peuple, en effet, se considère comme le peuple de Dieu, n'ayant pas d'autre roi que Dieu lui-même. Alors, accepter le joug de Rome, c'est donc considéré comme une grave infidélité à Dieu. Il y a un autre groupe qui partage d'ailleurs ces convictions, les pharisiens. 6000 d'entre eux ont refusé de signer l'acte d'allégeance à César et finalement les Romains ont cédé. Mais ils refusent de prendre les armes contre Rome. Sans doute qu'ils considèrent que toute insurrection est vouée à l'échec. Leur nom même de pharisiens, qui signifie les séparés, les décrit bien. Ils forment un groupe très fidèle à la Torah, qui est l'enseignement de Dieu, fidèle aux traditions. Pour eux, Dieu récompensera ceux qui accomplissent les préceptes de la Torah et il punira les autres. Mais malgré leur nom de séparés, ils vivent au milieu du peuple. Et cela, bien, les distingue d'un autre groupe qu'on appelle les Esséniens. Ces Esséniens considèrent que leur peuple, et tout particulièrement l'élite sacerdotale, vit dans le péché. Alors ils ont quitté la société pour aller vivre dans le désert, en communauté, une communauté déjà de style monastique. Ils se nomment les fils de la lumière, et ils considèrent tous les autres juifs comme des fils des ténèbres. Ils se préparent ainsi au grand jour de Dieu, où Dieu va purifier son peuple au cours d'une guerre probablement contre les Romains.
Jean a-t-il été membre de leur secte?
Ce n'est pas impossible, car lui aussi annonce comme imminent le grand jour de Dieu. Mais Jean se distingue de tous ces mouvements, en ce sens qu'il s'adresse au peuple tout entier. Zélotes, pharisiens, esséniens, sadducéens, qui sont les membres de l'aristocratie religieuse, il les invite tous à la conversion.
Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipère, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. »
Pour Jean, ceux qui se considèrent comme des purs ne doivent pas penser que Dieu va seulement punir les païens. C'est tout le peuple qui doit changer sa vie s'il veut survivre à la colère de ce Dieu qui va punir. Jean prédit la venue d'un Messie justicier qui tient en sa main la pelle à vanner. Cette image du vannage figure la séparation entre les bons, qui sont le grain, et les méchants, représentés par la balle. Si le bon grain sera rassemblé, eh bien la balle, elle, sera brûlée. Le message de Jean ne vise donc pas à former une secte de purs, mais à provoquer une transformation de tout Israël. Et si l'ensemble du peuple, ou du moins une majorité, se repent, alors peut-être que Dieu différera sa colère. Pour signifier cette conversion, Jean propose un geste très simple, se faire baptiser. Un baptême qui doit traduire un changement de vie, comme d'ailleurs nous le décrit le récit de Luc.
Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Des militaires lui demandaient « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. »
Voilà dans quel contexte historique va se situer la rencontre entre Jean et Jésus.
Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi.
Eh bien, comme l'écrit Albert Nolan dans son livre « Jésus avant le christianisme », Jean le Baptiste a été peut-être le seul homme qui a impressionné Jésus. Jésus a cru en cette voix qui avertissait le peuple du désastre imminent, qui appelait chacun à la conversion du cœur. Et il s'est joint à ceux qui étaient déterminés à y donner suite. Il s'est fait lui-même baptiser par Jean. Dans le récit évangélique de Matthieu, on peut percevoir pourtant une certaine gêne devant ce baptême. Comment se fait-il que Jésus se fasse baptiser par Jean? N'est-il pas le Messie plus puissant que Jean?
Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean veut s'y opposer. « C'est moi, dit-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui réplique. Laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice.
Eh bien, on peut peut-être trouver dans le récit de Luc une explication de ce geste de Jésus.
Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait.
Oui, en accueillant ce baptême, Luc semble nous dire qu'il répond au message de Jean. C'est le peuple tout entier qui doit signifier sa conversion pour tenter d'échapper au désastre qui vient. Jésus, lui, se montre donc solidaire de son peuple en partageant sa démarche.
Jésus a-t-il été disciple de Jean?
C'est possible. En effet, l'expression « venir derrière » décrit souvent le disciple d'un maître. Les disciples d'un rabbi marchaient en effet derrière lui pour porter ses tablettes. On dit qu'on se met d'ailleurs à la suite de quelqu'un lorsqu'on devient son adepte. Le récit évangélique de Jean fait mention que Jésus était avec Jean. Et donc, on peut comprendre qu'il était son disciple, comme semblent le dire les disciples de Jean-Baptiste à leur maître.
Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, voici qui se met, lui aussi à baptiser, et tous vont vers lui.
Dans ce même évangile, on trouve cette déclaration de Jean le Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Et certains spécialistes pensent qu'il peut y avoir là un jeu de mots en araméen où le mot rabbi signifie mon grand. Jean, donc, après avoir été le rabbi de Jésus, doit s'effacer devant son ancien disciple. Il faut que ce soit lui qui devienne mon grand, mon rabbi. Ce serait aussi le sens de l'expression « je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales ». Dans sa traduction de la Bible, André Chouraki commente ainsi cette phrase.
« Délier les sandales est le geste par lequel un esclave honore son maître, une femme son mari, un autre son visiteur. Il implique de se mettre à genoux. »
Jean voudrait donc dire avec cette phrase « je ne suis même pas digne d'être l'esclave de mon disciple ».
Jean parle de Jésus comme de celui qui est plus fort. Que signifie cette expression?
Ce terme évoque peut-être la parabole de Luc au chapitre 11, où le fort, qui est le chef des démons, est chassé par le plus fort, celui qui est muni de la force de l'Esprit divin.
Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Quand l'homme fort avec ses armes garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité. Mais que survienne un peu plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout l'armement en quoi il mettait sa confiance et il distribue ses dépouilles.
Le plus fort va d'ailleurs confirmer sa puissance divine dans la scène du désert où il vaincra les tentations du démon. C'est sa force divine qui lui permet de baptiser lui-même, mais cette fois dans l'Esprit de Dieu.
« Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »
Les auditeurs du Jean n'ignorent pas les textes bibliques qui parlent de ce temps où l'Esprit sera donné pour la purification du peuple.
« Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. » J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes.
Oui, c'est un texte d'Ézéchiel au chapitre 36. En effet, pour vivre selon la Torah, il ne suffit pas de connaître la Torah. Savoir distinguer le bien et le mal, connaître la pensée de Dieu et de la sagesse, ce n'est pas suffisant pour vivre dans le droit chemin de la vie, car il faut pour cela avoir en soi la force spirituelle qui permet d'accomplir ce qu'on sait être bien et bon. Les prophètes ont traduit ce besoin de l'être humain d'être pénétré de la force spirituelle de Dieu. Le Messie qu'on attend sera d'ailleurs tout spécialement porteur de cet esprit, comme le disent les textes d'Isaïe.
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qu'il m'a plu de choisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur Dieu, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur Dieu. »
Ce Messie accomplira la promesse de Dieu telle que l'annonçait le prophète Joël.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. »
L'apôtre Pierre, d'ailleurs, dira plus tard en décrivant Jésus,
« Vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. » Au moment où il sort de l'eau, Jésus voit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Eh bien voilà, décrite sous une image symbolique, la réalisation de cette espérance de l'être humain que les prophètes ont tellement décrit, être envahi de la force spirituelle de Dieu. Alors comment comprendre ces images? Eh bien il y a peut-être là une allusion à un autre passage d'Isaïe. Au chapitre 63.
Son peuple alors se rappela les jours du temps de Moïse. Où est celui qui fit remonter de la mer le pasteur de son troupeau? Où est celui qui mit en lui son Esprit Saint? Regardez-moi depuis le ciel. Tes tendresses pour moi ont-elles été contenues? C'est que notre Père, c'est toi. C'est toi, Seigneur Dieu, qui es notre Père, notre Sauveur depuis toujours, c'est là ton nom. Pourquoi nous fais-tu errer loin de tes chemins et endurcis-tu nos cœurs? Depuis longtemps, nous sommes ceux sur qui tu n'exerces plus ta souveraineté, ceux sur qui ton nom n'est plus appelé. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais!
Dans ce passage d'Isaïe, il s'agit d'une vibrante prière à Dieu, Père d'Israël, son peuple, pour qu'il vienne le sauver en lui donnant la force de marcher selon la Torah. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié par tes fils et tes filles. Ces supplications du Notre Père redisent d'une certaine manière l'essentiel de cette prière d'Isaïe. En ce moment du baptême de Jésus, cette déchirure des cieux va décrire la réponse du Père à la prière de son peuple. Oui, Dieu envoie son Messie sauveur. Jésus est le nouveau Moïse, pasteur de son peuple qui remonte de la mer. Comme les Hébreux étaient descendus dans les eaux de la mer Rouge pour en sortir libérés du joug des Égyptiens et pour aller servir librement leur Dieu sous la conduite de Moïse, ainsi Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain pour en ressortir désigné par Dieu comme le Messie qui va libérer son peuple. Dieu met son esprit en Jésus. Et le texte va faire appel à une autre image, celle de la colombe, pour traduire ce don de l'Esprit. Il n'est d'ailleurs pas facile de trouver dans la Bible d'autres passages où l'Esprit de Dieu est figuré par la colombe. Il y a sans doute une référence au texte de la Genèse.
« Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. » L'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux.
L'Esprit de Dieu planait, mais là il n'est pas encore parlé de colombe. Mais le Talmud de Babylone, qui est un commentaire rabbinique de la Genèse, dit qu'en ce temps-là, l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux comme une colombe qui plane au-dessus de ses petits mais ne les touche pas. Et ce même commentaire dit que Dieu peut se révéler directement à un de ses fils en faisant entendre une voix venant des cieux, une voix qui gémit comme une colombe. Donc cette image de la colombe est liée à la voix qui va venir des cieux.
C'est toi, mon fils bien-aimé, en toi se trouve parfaite ma volonté.
Nous avons là donc l'explication de cette venue tout spéciale de l'Esprit de Dieu sur Jésus. Il est le bien-aimé du Père, celui en qui l'amour divin est parfaitement accueilli. Jésus, dans son humanité, est celui qui n'a jamais refusé d'unir sa volonté à la volonté du Père. Chaque enfant juif est engendré culturellement par son Père humain, par le fait qu'il lui transmet la Torah, l'enseignement de la sagesse de Dieu que l'enfant doit apprendre par cœur. Et devenu à l'âge de 12-13 ans un adulte dans la foi, le jeune deviendra plus directement le Fils de Dieu parce qu'il va alors se laisser engendrer par le Père divin en écoutant la Torah, c'est-à-dire en la mettant en pratique dans toute sa vie. Il deviendra bar mitzvah, fils des préceptes de la Torah. Eh bien Jésus, comme tout jeune juif, a fait cela, mais il a vécu dans toute sa plénitude cet enfantement qui le fait fils de Dieu d'une manière unique. L'adjectif « bien-aimé » dans la traduction grecque de la Bible a souvent le sens d'unique, de premier-né. Oui, Jésus est vraiment le fils premier-né du Père, et comme le dira l'apôtre Paul, ceux qui seront ses disciples, eh bien Dieu les a prédestinés à être conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Dans ces mots qu'emprunte la voix, tu es mon fils bien-aimé, rejoignent également plusieurs textes bibliques. Dans le deuxième livre de Samuel, le prophète Nathan promet à David que Dieu choisira dans sa descendance un roi messie qu'il considérera comme son fils, car il sera le dépositaire de la Torah, une Torah qu'il aura la responsabilité de faire respecter par le peuple.
Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils.
Et cette appellation de fils pour le roi Messie sera reprise lors de la consécration royale où l'on chante le psaume 2.
Je publierai le décret, le Seigneur Dieu m'a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. »
La voix divine peut aussi faire écho à un texte d'Isaïe qui décrit un personnage que l'on appelle le serviteur de Dieu. Et il faut rappeler que dans la langue grecque, le même mot « païs » peut désigner autant le serviteur que le jeune garçon, le fils.
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. »
Donc on pourrait presque traduire « voici mon fils que je soutiens ». Cet écho est d'ailleurs encore plus évident dans la version de ce verset d'Isaïe tel qu'il se trouve dans le texte de Matthieu.
« Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui je trouve ma volonté parfaite. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit à la victoire. En son nom, les nations mettront leur espérance. »
Jésus, le Fils bien-aimé, le serviteur, aura donc comme mission d'annoncer le droit aux nations, c'est-à-dire de faire connaître la Torah à tous les peuples et pas seulement au peuple juif. C'est encore Isaïe qui décrit ce champ de mission du serviteur de Dieu.
« Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. »
Cette mission de proclamer l'Évangile à toutes les nations deviendra la mission des serviteurs de Dieu, des fils de Dieu que seront les disciples de Jésus. Donnons un exemple pris dans les Actes des Apôtres. À Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé rencontre l'opposition d'un groupe de juifs qui, pris de fureur devant le succès de Paul auprès des foules de la ville, veulent les empêcher de parler à la synagogue. Alors Paul et Barnabé ont la hardiesse de déclarer.
« C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. Car tel est bien l'ordre que nous tenons du Seigneur. » Je t'ai établi lumière des nations pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre.
Ainsi, par cette expérience spirituelle intense que Jésus fait à l'occasion de son baptême, il reçoit de son Père divin sa mission. Lui, le Fils unique de Dieu, sera le porte-parole du Père pour donner l'interprétation parfaite de la Torah afin de renouveler l'alliance entre Dieu et Israël et de l'ouvrir à tous les peuples de la terre. « Et ce que Jésus a vécu est typique, au sens que c'est le modèle de toute vie chrétienne. Comme l'explique Jésus à Nicodème, nous avons, nous aussi, à naître de l'Esprit.
Amen. Nul ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né du souffle de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut.
Voilà ce qu'est le baptême du disciple de Jésus. Il doit être plongé dans le souffle spirituel qui vient de Dieu pour être capable de vivre l'évangile de Jésus, la nouvelle Torah, et devenir lui aussi fils et fille de Dieu. Ce baptême doit inaugurer un style de vie qui va développer en lui l'être divin. Toute sa vie sera comme l'accomplissement de ce qui est ensemencé au baptême. Mais bien sûr, pour cela, pour le réaliser, il faut prendre du temps pour se mettre à l'écoute de la parole divine. La parole divine que nous rencontrons dans l'Évangile, elle doit être priée pour être comprise. Oui, l'Évangile n'est pas un livre que l'on lit, mais un livre que l'on prie. Dans le silence de la prière, il faut reprendre telle ou telle parole de l'Évangile en l'écoutant de Jésus, qui nous l'a dit personnellement en cette minute même par son esprit. Écoutons Madeleine Delbrel qui décrit bien cet enfantement du chrétien par l'Évangile.
L'Évangile est non seulement le livre du Seigneur vivant, mais le livre du Seigneur à vivre. Il n'est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. Cette phrase du Seigneur que nous avons arrachée à l'Évangile veut féconder, modifier, renouveler la poignée de main que nous aura donnée, notre effort sur notre tâche, notre regard sur ceux que nous rencontrerons, notre réaction sur la fatigue, notre sursaut devant la douleur, notre épanouissement dans la joie. Quand nous tenons l'Évangile dans nos mains, nous devrions penser qu'en lui habite le Verbe qui veut se faire chair en nous. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-87-50. Vous pouvez aussi utiliser le télécopieur 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse du site. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an, aux cassettes ou aux feuillets.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.